parcours avec Le Parisien et Aujourd'hui en France. Christophe Cessieux.
Moins de 14 km à parcourir avant d'arriver ici à Sheffield au terme de la deuxième étape du Tour de France entre York et Sheffield. Deuxième étape sur les routes anglaises. 14 km à parcourir et la plupart des leaders du classement général qui sont à l'avant de la course alors qu'un homme tente de s'échapper. Un coureur de la formation Europe Car, Fred.
Eh oui, c'est Pierre Roland, l'ancien vainqueur des étapes de l'Alpe d'Huez ou de la Toussuire, ancien maillot à poids, meilleur grimpeur, qui était sorti avec Jean-Christophe Perrault, on vous l'avait dit tout à l'heure, au sommet de l'avant-dernière difficulté de la journée. Ils ont poursuivi et il est le seul maintenant à 13 500 km de l'arrivée.
Allez, on va retrouver la moto RMC, justement, Georges Quirino, au contact de l'homme de tête.
Oui, effectivement, Pierre Roland que l'on voit juste derrière nous, il était allé dans une petite ascension là qui n'est pas répertoriée dans le carnet de route et il est sorti, et il a lâché Jean-Christophe Perrault. Pierre Roland avec le maillot Europe Car que l'on voit là, on est sur des routes assez larges, hein, la ferveur est un petit peu moins importante ici, on peut voir parfaitement Pierre Roland et derrière lui, eh bien on voit le peloton qui n'est, allez, on va dire qu'à une centaine de mètres environ pour l'avant-garde du peloton, ou en tout cas ce qu'il en reste pour Pierre Roland. Le regard bien fixé vers l'avant, les mains en bas du guidon pour le coureur de l'équipe Europe Car en vue sur le Giro et qui se montre pour l'instant dans ses derniers kilomètres. Il est encouragé par les supporters britanniques qui ont sorti le drapeau français au passage de Pierre Roland.
Voilà, Pierre Roland seul en tête. Fred, une petite avance tout de même pour le leader de la formation Europe Car.
Oh oui, 10-12 secondes, pas plus. Il s'est extirpé de ce duo qu'il composait avec Jean-Christophe Perrault. On l'a vu à plusieurs reprises. Son compatriote et compagnon d'échappée en lui reprochant peut-être de ne pas en faire assez. À 13 km de l'arrivée, il a pris la décision d'y aller seul, derrière, à l'avant d'un peloton réduit à une grosse soixantaine d'unités. Ce sont les Cannondale, les coéquipiers de Peter Sagan, qui jouent sur du velours à 13 km de l'arrivée, qui emmène le peloton. Ce sera très dur pour Pierre Roland, pas sûr du tout que l'équipe Europe Car ait reconnu le final de cette deuxième étape, car les kilomètres qui viennent ne sont pas du tout favorable à un homme seul. Ce sont de longues lignes droites, beaucoup plus plates que les derniers kilomètres. Il y aura bien sûr cette dernière difficulté de la journée à 5 km de l'arrivée, moins d'un kilomètre d'ascension, mais à plus de 10% de moyenne. Ce sera très raide et c'est peut-être là qu'il faudra lâcher les chevaux.
Voilà, c'est peut-être là qu'il faudra lâcher les chevaux. Impression donc, Georges Quirino sur la moto RMC, Pierre Roland qui a l'air bien et qui creuse petit à petit l'écart. 12 secondes au dernier pointage, Georges.
Qui creuse l'écart là, la route qui s'est un petit peu plus aplanie, les routes assez larges, il peut vraiment regarder derrière lui. Il s'est retourné à plusieurs reprises Pierre Roland pour eh bien voir la distance qui le séparait du peloton. Allez, il y a 150-200 mètres peut-être, pas plus, entre lui et le peloton. Alors est-ce que les Europe Car ont reconnu le parcours? Je peux te dire que non. Fred, tu le disais il y a quelques instants, pour en parler avec Thomas Vauclair ce matin, ouais. Eh bien ils ne sont pas venus en Angleterre pour voir les étapes, hein. Thomas Vauclair qui se savait lui attendu sur ce genre d'étape, il savait que ça allait être compliqué pour lui, il disait eh bien peut-être que un autre larron de l'équipe Europe Car allait pouvoir sortir. Eh bien c'est Pierre Roland qui est sorti, ça descend un petit peu plus là maintenant, on va accélérer et vous allez voir également des rangées de spectateurs de plus en plus nombreux avant une épingle à gauche très serrée qui va attendre Pierre Roland dans quelques instants.
Cyril Guimard, Pierre Roland a-t-il choisi le bon moment pour attaquer dans cette étape et peut-il selon toi aller chercher la victoire d'étape?
Oh, c'est une attaque qui me paraît quand même un petit peu suicidaire, non calculée, et bon, on vient d'avoir la réponse, il n'avait pas vu le final de cette course. C'est vrai qu'il reste encore plus de 5 km pour attaquer la dernière ascension, 5 km et une ascension de 800 mètres à 10%, il y a de forte chance qu'il ait peut-être une petite panne de cuisse en arrivant dans cette ascension. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir avoir une bonne lecture de la course. Et quand on sait qu'il y a un homme comme Peter Sagan qui est là avec encore 3 équipiers, et donc c'est les 3 équipiers qui roulent tranquillement et qui gèrent l'écart à 10 secondes, 12 secondes. Ils ne cherchent pas à aller chercher le Français. Et Jean-Christophe Perrault a compris très vite que cette attaque était suicidaire et qu'il valait mieux se remettre au chaud dans le peloton.
Cyril, le potentiel, les qualités intrinsèques, le moteur de Pierre Roland est à coup sûr quasi extraordinaire. En tout cas, il est internationalement reconnu. On ne gagne pas l'Alpe d'Huez, la Toussuire, on ne termine pas quatrième du Giro comme il l'a fait en s'accrochant de fort belle manière à Nairo Quintana sans avoir des qualités physiques incroyables. Tout de même, Pierre Roland ne démontre-t-il pas, ne met-il pas au jour certaines lacunes tactiques ?
Pas sur ce que l'on voit aujourd'hui, oui, mais vous savez, on a tellement l'habitude dans cette équipe de voir sous... la réussite d'un Vauclair sur des attaques qui peuvent paraître quelquefois à contre-temps, qu'on essaye de s'inspirer aussi de Thomas Vauclair, sauf que Thomas Vauclair c'est pas un nez qu'il a, c'est deux, et puis de temps en temps il a aussi une très belle réussite sur des échappées qui partent de loin, mais là sur ce final là c'est des choses qui ne peuvent pas se faire. On l'a dit tout à l'heure, c'est un final de qui ressemble à celui de Liège-Bastogne-Liège.
Oui, mais il n'a peut-être pas le choix, Cyril, aussi, Roland, parce qu'à la pédale, peut-être dans la dernière bosse, il n'aura peut-être pas l'occasion de sortir comme il est sorti là.
Non, Lucho.
Il a bien
Il a pas attaqué. On l'a laissé partir au sommet, ouais. Hein, avec Jean-Christophe Perrault qui est resté
dans la
route.
C'est pour ça que je te dis qu'à la pédale, il ne pourra pas sortir comme il est sorti là.
Mais là, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il se fasse sortir.
9 km de l'arrivée bientôt, et dans quelques instants, a priori, Pierre Roland devrait être repris par l'avant-garde du peloton emmené par les Cannondale.
Voilà, dans 3 km, la côte de Jenkin Road, dernière difficulté de la journée. Ce sera court, hein, seulement 800 mètres avec une pente de 10,8%. La moto RMC est-elle toujours au contact de l'homme de tête ou a-t-elle dû passer devant? Parce que là, évidemment, le groupe des leaders est en train de revenir tout doucettement, ouais, sur Pierre Roland. Georges.
On est passé devant depuis bien longtemps, hein. Christophe, évidemment, difficile de s'intercaler entre Pierre Roland et le peloton. Mais oui, là, il est en train de se retourner, Pierre Roland. Il a bien compris, eh bien, que ça allait être trop difficile pour lui. C'est pas vraiment des routes qui privilégient l'échappée d'un homme seul, hein. On est à nouveau dans une ville désormais. On est dans des routes très larges, pas du tout techniques. Ça ne monte plus, ça ne descend plus. On est sur du plat. Donc là, le peloton qui peut avoir parfaitement en ligne de mire Pierre Roland et jouer avec lui pour le reprendre au meilleur moment possible. Il est passé il y a quelques instants sous la banderole des 10 derniers kilomètres. On est même à 8 kilomètres maintenant de l'arrivée pour Pierre Roland. Mais là, voilà, maintenant on voit pas. C'est même impossible qu'il résiste au retour du peloton dans quelques instants, alors qu'on va aborder la dernière difficulté de la journée.
Très bien. Vos paris rapidement, messieurs. Cyril, qui vois-tu vainqueur de cette deuxième étape?
Moi je reste sur Peter Sagan, qui a encore plusieurs équipiers, mais il y a d'autres coureurs qui pourraient bien se mêler à la victoire finale.
D'accord, Peter Sagan pour Cyril. Luc.
Moi je veux dire Valverde
pour Lucho.
Greg Van Avermaet, le Belge de BMC.
Van Avermaet, et Georges va nous donner qui comme vainqueur d'étape?
Peter Sagan également. Peter Sagan pour moi, c'est un profil qui est apprécié.
Et bien moi aussi, Peter Sagan. Donc on est à 7 km 800 de l'arrivée, peloton groupé. Pierre Roland a été avalé par l'avant-garde du peloton qui rentre dans les rues de Sheffield, Fred.
À 2 km du pied de la dernière ascension, on vous l'avait dit, ce sont de longues lignes droites toutes plates en direction de la dernière difficulté de la journée, qui est, comme beaucoup d'entre nous ici, courte mais dure, hein, cette dernière montée. À 5 km de l'arrivée, elle rappelle, pour l'avoir emprunté tout à l'heure, la côte de Saint-Nicolas, la côte des Italiens dans le final de Liège-Bastogne-Liège, avec le même profil, avec des maisons en briques rouges à droite et à gauche, et une foule de Sheffield massée sur ces quelques hectomètres qui se dressent sous les roues des coureurs. C'est dans moins d'un kilomètre 500 et le peloton est groupé, un peloton où ne figure plus un seul sprinter, excepté Peter Sagan, si on peut qualifier.
Et Simon Gerrans.
Simon Gerrans, oui, tout ça c'est beaucoup plus que des sprinters. Ce sont de véritables punchers qui sont capables de passer cette dernière difficulté.
Alors, comment faire pour les faire sauter, ces deux-là, Cyril? Il va falloir attaquer au pied de cette côte. Il n'y a que 800 mètres, c'est très court, hein.
800 mètres, mais attaquer au pied, vous n'allez pas jusqu'en haut, donc il faut attaquer aux 300 mètres avant le sommet, mais surtout pas avant, et éventuellement faire durcir le rythme par un équipier.
Ouais. Ouais. Alors qui
en reste, hein, après tu vois, une bosse comme celle-ci, Cyril, ça convient bien à un homme comme Valverde aussi. C'est vraiment un final pour lui.
Tout à fait, c'est ton favori.
Ouais, voilà.
Non, mais oui, mais tu vas le vendre.
Non, mais c'est évidemment. Non,
mais Valverde. Mais tu as raison, Valverde.
Voilà. Ricosta, il est toujours là. Il est
bien sûr, bien sûr.
Ricosta est là. Oui, là aussi.
Il y a un bon nombre de favoris encore.
Andy Schleck est là également avec Simon Gerrans.
Pas vu une tête de course, lui.
Andy Schleck et Frank Schleck. Attention, attention, ils sont maintenant près de 80 hein, dans ce peloton. Ne parlons pas d'un groupe de tête. Il y a là Franck Schleck, il y a là donc Cyril Gauthier, Pierre Roland pour les Français, Thibaut Pinot est là, Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault. Cyril, on peut voir également Tony Galopin, attention, au vainqueur de la dernière classique à San Sebastian, lui aussi peut faire partie des favoris pour la victoire d'étape. En parlant de favoris, on rappelle que tous les prétendants au classement général sont dans ce groupe là on est à 6 km de l'arrivée, le peloton qui tourne à gauche et c'est le début de la montée de cette dernière ascension avec les Orica Green Edge, l'équipe australienne qui mène le groupe. Michael Albazini est en tête, les Cannondale emmènent avec Peter Sagan en 5e position, Christopher Froome est à ses côtés, Alberto Contador aussi, tous les costauds sont là. Ce sont les Cannondale qui mènent la danse à 5 km 700 de l'arrivée.
Les Cannondale de Peter Sagan qui durcissent la course et qui voient toujours leur leader
la durcir quand même pour Sagan.
Oui, c'est quand même un peu risqué, Cyril.
Non, pas du tout.
Non. Contador est en 3e ou 4e position, me semble-t-il.
Contador en 3e position qui a dans sa roue le champion d'Italie, Vincenzo Nibali. En première position, c'est toujours un équipier de Sagan qui s'écarte à l'instant. Contador qui prend la tête du peloton pour la première fois sur ce Tour de France 2014. Alberto Contador est en première position. Ce n'est probablement pas l'unique fois qu'on le verra dans cette position tout au long des 3 semaines. Dans sa roue, Michael Albazini, le Suisse, Vincenzo Nibali. On aperçoit Peter Sagan qui vient snober du regard Alberto Contador. Greg Van Avermaet, le Belge de BMC, est sur la droite de la route. Jakob Fuglsang, le coéquipier de Nibali, est également là. Tony Galopin et Jürgen Vandenbroek pour l'Auto Bellisol. Alejandro Valverde, l'Espagnol. Christopher Froome également dans les 10 premières positions. Tout le monde est là et ça ne bouge pas pour l'instant. C'est toujours Contador qui emmène.
Oui, mais ça monte vite. Ça monte vite. Voilà. Mais on n'a pas l'impression que
C'est dur, hein, le pourcentage là.
Ouais. Mais il attaque pas franchement là, Alberto Contador.
Il mène un rythme élevé.
Rythme élevé en tous les cas. Tous les leaders sont là. Chris Froome est là et Peter Sagan. Cyril, c'est quand même étonnant. Ah, peut-être une accélération là d'Alberto Contador.
Nouvelle accélération effectivement. Attention à Vincenzo Nibali qui est idéalement placé dans la roue de Contador. Une attaque en demi-ton pour Contador et Peter Sagan qui vient se porter à hauteur de Contador en première position. Il vient mater la concurrence et bien expliquer à tout le monde que c'est lui qui va gagner l'étape avec le contre de Christopher Froome sur la droite de la route dans le final de cette dernière difficulté. C'est Van Garderen qui bouge comme l'an passé vers Ajaccio. Christopher Froome vient tenter de mettre un coup de semonce mais derrière Van Garderen, Nibali, Contador, Valverde, Sagan et Jakob Fuglsang accrochent la roue de Christopher Froome qui pour la symbolique passe la dernière difficulté de la journée.
Il a voulu montrer à tous ses rivaux qu'il était là, Chris Froome évidemment. Une attaque, il n'a pas voulu aller chercher la victoire d'étape, il a montré qu'il était le cadre et Alberto Contador s'est contenté de regarder, de suivre ça du regard. C'est Chris Froome qui emmène maintenant le peloton dans la descente assez sinueuse de cette dernière difficulté. Nous sommes à moins de 5 km de l'arrivée, donc Chris Froome en tête de la course.
L'Intox est en route vers Sheffield avec Christopher Froome qui répond à l'instant à une attaque de Jakob Fuglsang, le Danois coéquipier de Vincenzo Nibali à 4 km 500 de l'arrivée. On descend cette dernière difficulté du jour et Fuglsang tente de fausser compagnie à ce groupe de tête, un groupe où ne figure plus un seul sprinter excepté Peter Sagan qui a fait une démonstration de force sur cette dernière ascension sans attaquer. Il a bien montré à tout le monde que le vainqueur à Sheffield de tout à l'heure, ce serait lui, rien d'autre que ça.
Voilà, et Peter Sagan qui prend même la direction des opérations maintenant dans la descente de cette dernière difficulté avant de retrouver les lignes droites qui vont nous mener vers la ligne d'arrivée à Sheffield. Peter Sagan plus que jamais favori pour la victoire d'étape dans cette deuxième étape. Chris Froome, Alberto Contador, Nibali ont montré qu'ils étaient là, mais désormais ils vont laisser sans doute la victoire d'étape à Sagan qui n'attend pas le sprint qui lance de loin, bizarre, hein, incroyable.
Cyril, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop Peter Sagan en prenant la tête à 3 km 500 de l'arrivée? C'est un profil descendant, ça y est, à nouveau sur des roues plates, il faut maintenant qu'il laisse passer la concurrence en tête, non?
Bien, pour l'instant il essaye d'endiguer les différentes attaques qui pourraient avoir lieu et qui ont lieu, donc il est obligé, parce que tout le monde va courir sur lui, il est obligé pour l'instant dans cette partie descendante de continuer à emmener ce peloton pour éviter justement ces attaques, en attendant qu'il ait au minimum un équipier qui puisse revenir lui donner un coup de main.
Peter Sagan qui fait parler ses talents d'équilibriste, lui l'ancien vététiste, l'artiste du vélo, capable de franchir n'importe quelle ligne d'arrivée sur la roue arrière et de rattraper n'importe quelle glissade de la roue arrière, de la roue avant. Il laisse à nouveau Jakob Fuglsang, le Danois, secouer l'avant de ce peloton. Fuglsang pris en
voilà
chasse.
Voilà le piège, voilà le piège pour Greg.
Greg Van Avermaet qui voilà. sort dans la roue de Fuglsang. Ils sont deux à l'avant de la course à 2 km 500 de l'arrivée. Fuglsang le Danois et Van Avermaet le Belge.
Cyril, le piège évidemment.
C'est
pour
ça le piège. Oui, le piège c'est qu'il n'a plus d'équipier.
Il n'a plus d'équipier, ça y est.
Plus d'équipier. Et là, il ne sait pas trop.
Et là,
quoi
c'est
faire.
Plaisir, c'est peut-être Galopin qui vient de sortir.
À moins que ce soit Jürgen Vandenbroek le Belge. En tout cas, c'est un coureur de l'équipe Lotto Bellisol. Absolument, c'est Vandenbroek qui prend en chasse Van Avermaet et Fuglsang. Derrière, on aperçoit également un coéquipier de Christopher Froome. C'est l'Espagnol Mikel Nieve, me semble-t-il, qui ramène tout le monde, qui ramène Christopher Froome, qui ramène Sagan, qui ramène Contador sur la tête de la course. Et à 2 km de l'arrivée, ce groupe de favoris est à nouveau groupé.
Voilà, Peter Sagan qui tente de reprendre des forces et qui va probablement lancer le sprint tout à l'heure. Il surveille évidemment.
Attaque de Romain Bardet sur la gauche de la route, voilà. 1 km 900. Romain Bardet, le meilleur français du dernier Tour de France, le co-leader de l'équipe AG2R La Mondiale.
Avec Galopin.
Qui ne te retourne pas, Romain, là.
Il a profité d'une temporisation en tête de ce groupe de favoris. Un Bardet, deux Galopin, trois Sagan. Oui, Peter Sagan, le Slovaque, mate la concurrence. Il a une cravache dans la main droite et il est en train de mettre des petits coups de fouet à chacun.
Nouvelle attaque à gauche
et
de la route.
Cette fois, c'est Vincenzo Nibali, le champion d'Italie, qui a attaqué sur la gauche de la route. C'est un feu d'artifice vers Sheffield. On est à moins de 2 km de l'arrivée et le récent champion d'Italie, l'ancien vainqueur
du
Giro, a fait la différence. Un 1 700 km, il ne se retourne pas, les mains sur les cocottes, il a fait le break, il compte 5 secondes d'avance sur un peloton qui ne réagit pas. Ça y est, ouais. Peter Sagan en a trop fait.
Ouais, Peter Sagan en a trop fait.
Il n'avait pas le choix.
Ils sont en train d'enterrer Sagan.
Ah ouais, c'est pour ça que Sagan a voulu attaquer dans la descente tout à l'heure. Il a essayé de prendre du champ pour essayer de juguler toutes les attaques qui se sont succédées. Et cette fois-ci, le requin de Messine, Vincenzo Nibali, a pris du champ. Il a quelques centaines de mètres d'avance maintenant sur le reste du groupe où ça ne réagit pas, ça ne tente pas de rattraper Nibali qui va peut-être s'envoler vers la victoire, Fred.
Eh bien voilà, la dernière difficulté de la journée ressemblait à la côte de Saint-Nicolas dans le final de Liège-Bastogne-Liège, la côte des Italiens, elle est surnommée. Ce n'est pas le cas ici à Sheffield, mais Vincenzo Nibali a trouvé dans les contreforts de Sheffield un terrain à sa convenance. Il passe à l'instant sous la flamme rouge.
La flamme rouge du dernier kilomètre.
La flamme rouge.
Vincenzo Nibali, le champion d'Italie de la formation Astana.
C'est ressorti derrière.
Ouais, mais attention, il a fait le trou. Il a fait le trou à moins de 1 km de l'arrivée. Je ne vois pas comment on pourrait le reprendre, même si Peter Sagan tente de réagir. Mais c'est trop tard maintenant, à 800 mètres de la ligne d'arrivée, Fred.
Oh, l'ancien vainqueur du Tour d'Italie qui a fait l'impasse cette année sur le Giro pour préparer le Tour de France, pour essayer d'aller rivaliser avec Christopher Froome, avec Alberto Contador. Il avait terminé 7e du Dauphiné. Il compte maintenant une petite centaine de mètres d'avance sur la concurrence. Derrière, c'est le champion du monde Rui Costa qui est sorti avec dans sa roue Christopher Froome. 450 mètres de la ligne d'arrivée pour Vincenzo Nibali qui va aller remporter sa première victoire d'étape sur le Tour de France.
Alors je ne sais pas si c'est une impression visuelle et si la caméra écrase un peu les distances. On a l'impression en tous les cas que Peter Sagan n'a pas appliqué. Il tente de revenir sur Vincenzo Nibali. Sans doute fera-t-il un peu trop juste. Oui, Nibali qui va s'imposer avec un faux plat montant maintenant pour le requin de Messine. Qui va approcher la ligne dans quelques instants, Fred.
Voilà, le Sicilien Vincenzo Nibali qui va aller lever les bras pour la première fois de sa carrière sur une étape du Tour. Quel sens tactique, quel nez de la part de Vincenzo Nibali qui se retourne une ultime fois mais qui relance, sachant que chaque seconde grappillée est efficace. Il va endosser le maillot jaune, il montre son maillot tricolore vert, blanc, rouge et devant sur la ligne d'arrivée Greg Van Avermaet, le Belge, pour 3 secondes. Ce sera lui le nouveau maillot jaune du Tour. Vincenzo Nibali s'est découvert et dès la deuxième étape il vient prouver qu'il est davantage qu'un outsider. Il faudra compter sur lui pour la victoire finale sur le Tour de France.
Vincenzo Nibali, l'Italien, le troisième homme de ce Tour de France, celui qui peut peut-être mettre à mal la domination de Chris Froome et d'Alberto Contador, qui remporte donc cette deuxième étape. Peter Sagan est battu, il a tout fait pour remporter cette étape, il n'y est pas parvenu. Vincenzo Nibali qui outre cette victoire d'étape va également se vêtir de jaune tout à l'heure. Il sera le nouveau leader de ce Tour de France. Oh, pas pour grand chose, mais il sera leader. Maintenant il faudra défendre ce maillot jaune. Magnifique réussite, Cyril, de Vincenzo Nibali là.
Oui, il a attendu le moment précis où il pouvait faire la différence. Sagan était piégé, on l'a dit d'ailleurs dès le sommet, il a été obligé de faire la descente. Donc après, c'est celui qui va sortir.
Cyril, lâche, Pierre-Yves Leroux qui est à côté d'Alberto Contador.
Pero bueno, lo importante era salvar el día.
J'étais vigilant sur la fin.
Nibali
s'était échappé. Mais l'essentiel, c'est que je termine cette étape sans dommage, sans dégâts.
Il y a un peligro increíble. Vamos a embajadas a 80, a 90 por hora. Y la gente se tiene.
Oui, dans les deux dernières difficultés de la journée, on était encore 80-90 et le public était tellement nombreux qu'on avait du mal à se frayer un chemin. C'est pourquoi j'ai pris les devants. Résultat du jour, je suis assez content. Oui, pendant toute l'étape, on a vu mes coéquipiers de Tinkoff à l'avant, parce que l'idée c'était d'éviter les éventuelles chutes, et il y en a eu des chutes. Et je les remercie tous, évidemment, on a fait un gros travail d'équipe. Quant à Nibali, il a une nouvelle fois montré son niveau. Et il a eu la chance dans le final d'avoir des équipiers. Fulsang s'est sacrifié. Et au final, il a montré qu'il faudra compter avec lui.
Siempre es importante estar un poco preparada, apretar un poquito, hoy no era día, había muchísimo que remar hasta meta y nada, hoy es un día de pasado sin problema y así lo hemos hecho.
Voilà, je ne suis pas trop déçu d'avoir laissé la victoire d'étape à Vincenzo Nibali. Aujourd'hui, le but c'était de passer entre les gouttes, entre les chutes et cette arrivée à Sheffield. Même si Nibali a gagné, pour moi c'est une journée de passer, une journée de gagner.
Voilà, journée de gagner pour Alberto Contador. Tous les leaders sont là. Il n'y a pas de gros dégâts à l'arrivée, mais il y a un homme qui fait forte impression, Cyril. C'est évidemment Nibali, même si évidemment il est loin d'avoir gagné le tour, mais il s'affirme vraiment comme le troisième homme de ce Tour de France.
Oui, ne tirons pas de conclusion sur cette étape. Il court avec beaucoup d'intelligence, il sort au bon moment. Imaginons que ce soit le contraire, que ce soit Fuglsang, et c'est Fuglsang qui aurait été.
Cyril, je te coupe encore parce que Pierre-Yves Leroux, oui, c'est toujours difficile juste après l'arrivée. Pierre-Yves est au complet de Pierre Roland, leader de la formation Robcar.
J'ai pas pensé au Giro aujourd'hui, à part voilà. C'était dur, c'est le tour, c'est nerveux et encore merci à mes équipiers qui m'ont beaucoup aidé.
Pierre, qu'est-ce qui se passe à ce moment où vous allez chercher les points? Derrière, vous hésitez un petit peu, vous vous dites il y a une possibilité, il y a une fenêtre qui s'ouvre.
Oui, j'étais étonné que ça ne suive pas. Et bon, c'est une étape où il faut. Voilà, on se devait de passer à l'attaque sur une étape comme ça. Si on n'attaque pas sur une étape aussi difficile, voilà, j'ai une. Ça s'est ouvert, après j'ai vu que ça n'a pas suivi, j'ai insisté un peu. Après, sur le plat, c'était vraiment long pour rejoindre la dernière côte. Il y avait vraiment beaucoup de plats. Je pensais que ça allait s'enchaîner plus vite avec la dernière bosse, mais. Et voilà.
À la fin, c'était la peur de perdre du temps ou...
En début de tour, tout le monde compte un peu les points, donc voilà, on essaye de garder de l'énergie. Après, il y a celui qui gagne l'étape aujourd'hui prenait le maillot jaune, donc il y avait beaucoup d'intérêt sur toute l'étape. Il y avait plein de classements à prendre, plein de choses à faire, donc voilà, c'était une étape rondement menée. Quand même.
Ce qui se confirme, c'est que la condition est là.
Ouais, on verra dans les Vosges.
Qu'est-ce que vous avez dit que je...
Merci Pierre Roland sur la ligne, alors que certains coureurs continuent à passer justement devant nous. Un petit geste quand même au moment du passage de Romain Bardet tout à l'heure, et que j'ai vu taper sur son guidon, vraiment déçu très certainement de ces derniers kilomètres après avoir tenté peut-être avoir vu une possibilité d'aller chercher l'étape.
Et oui, il a attaqué Romain Bardet, il termine 10e de cette étape dans le même temps que le vainqueur. On rappelle donc Fred, la victoire de Vincenzo Nibali, l'Italien champion champion d'Italie de la formation Astana.
Oui, le requin de Messine, comme il est surnommé, âgé de 29 ans, vainqueur du Giro l'an passé et deuxième de la Vuelta, a fait l'impasse cette année sur le Tour d'Italie pour préparer le Tour de France. Il a eu raison, il a attaqué à moins de 2 km de l'arrivée de cette étape très vallonnée. Il a attaqué sur le plat à l'entrée de la ville de Sheffield et a réussi à conserver deux petites secondes d'avance ici sur la ligne d'arrivée sur le Belge Greg Van Avermaet de l'équipe BMC et attention à lui, le Polonais Michał Kwiatkowski qui avait terminé meilleur jeune du Tour de France l'an passé, le coureur d'Omega Pharma Vincenzo Nibali qui bien sûr endosse le maillot jaune de leader du classement général. Un petit mot sur le maillot à poids, ce n'est plus Jens Voigt qui le porte mais un Français, c'est Cyril Lemoine qui faisait partie de l'échappée du jour, le coureur de l'équipe Cofidis. Si mes calculs sont bons, ce sera lui le maillot à poids demain matin.
Très bien, on va se quitter quelques instants, on vous rappelle la victoire de Nibali, coup double pour l'Italien qui va également décrocher le maillot jaune de leader. On se retrouve dans un instant sur la route du Tour de France et puis on ira également à Wimbledon où la bataille fait rage entre Djokovic et Federer. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour en direct de Sheffield en Angleterre pour la deuxième étape de ce Tour de France qui a donc vu la victoire il y a quelques instants de Vincenzo Nibali, champion d'Italie. Nibali qui a réussi à fausser compagnie à tous les leaders dans le final de cette étape pour s'imposer en solitaire, ou pas avec une grosse marge d'avance puisqu'il remporte l'étape avec 2 secondes d'avance seulement sur le Polonais Kwiatkowski. Le Belge Van Avermaet termine troisième. Tous les leaders sont là, notamment Chris Froome ou encore Alberto Contador. Nibali qui fait coup double puisqu'il s'empare également du maillot jaune. Avant de revenir et d'analyser cette deuxième étape, on va descendre un peu plus bas en Angleterre, retrouver Eric Salio à Wimbledon. Wimbledon où la finale tient vraiment toutes ses promesses entre Djokovic et Federer. Vraiment une finale passionnante, Eric Salio.
Djokovic vient de basculer en tête, Novak Djokovic vient de basculer en tête, Christophe, il mène 2-1 face à Roger Federer, 6-7, 6-4, 7-6, donc c'est très simple, si Federer n'arrive pas à prendre la mise en jeu de Novak Djokovic, eh bien il ne remportera pas un 8e titre ici à Wimbledon. C'est vraiment mission très compliquée pour le Suisse qui a mal joué le tie-break du 3e, beaucoup d'imprécisions, peut-être un peu de précipitation, le physique qui commence à flancher et Novak Djokovic s'est imposé 7-4 dans ce tie-break. Il est donc à 1-7, lui, de remporter son deuxième Wimbledon.
Eh oui, Djokovic qui avait perdu tout à l'heure la première manche au tie-break, mais qui ensuite s'est vraiment refait la cerise, Eric. On va revenir te voir pour peut-être le dernier set de cette finale. Donc 2-7-1 pour Djoko face à Federer. Retour ici donc à Sheffield. Nous sommes dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire, où le temps est en train de tourner. Hein. La pluie est remontée vers le nord. Ça ne devrait pas tarder de nous tomber sur la tête. En tous les cas, une étape passionnante et notamment un final passionnant, mon cher Fred, qui a vu donc Nibali fausser compagnie à tout le monde. Tout le monde voyait Peter Sagan s'imposer et Peter Sagan s'est fait piéger.
Alors tout le monde, mais surtout lui, Peter Sagan, qui se voyait gagner et qui en a peut-être un peu trop fait dans le final. Il a perdu tous ses équipiers dans la dernière ascension parce que c'est monté vite avec Alberto Contador et Christopher Froome qui se sont défiés du regard et de la pédale dans la dernière montée, mais derrière, Peter Sagan n'a pas donné sa part au chien. Il a fait la descente et il a du coup éliminé ses équipiers.
Alors Fred, on va tout de suite retrouver Pierre-Yves qui est en compagnie de Thomas Vauclair.
Voilà, Thomas qui gentiment s'arrête parce que la journée a été compliquée. On vous a vu devant et puis là, un petit peu de retard à l'arrivée.
Oui, j'ai tenté le coup quand on a repris l'échappée où on avait Péric qui est meneur, donc pour essayer d'être représenté encore devant. Je me suis mis un petit peu dans le rouge, hein. J'ai pris un groupe là avec Tony Martin et Cyril Gauthier, mais j'ai payé un petit peu mes efforts, mais voilà, c'est un début de tour un peu compliqué au niveau du public, c'est très dangereux pour tout le monde. Je crois que Pierrot arrive dans les temps, il me semble. Donc c'est le principal pour aujourd'hui.
Voilà, il a tenté sa chance même sur les derniers kilomètres. Il était tout seul devant jusqu'à 5-6 kilomètres de l'arrivée. Et puis c'est ce qu'il nous disait. De toute façon, il fallait se montrer aujourd'hui.
Ouais, parce que maintenant, un coureur comme lui, ou bien d'ailleurs moi-même, on a plusieurs jours où il va falloir faire attention, mais où il n'y a pas de terrain pour s'exprimer. Ça va être une autre catégorie de coureurs que Pierre. Donc lui, il faut qu'il reste au chaud, si on peut dire, jusque dans les Vosges.
Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à dire au public, faites attention, c'était encore dangereux aujourd'hui.
Ouais, mais j'ai l'impression que ça sert à rien parce que on voit encore des enfants ou des enfants sur des chaises à 1 mètre sur la route. Voilà, on dirait que les gens tiennent pas compte de ce qu'on dit, nous les coureurs, alors que c'est pas pour nous, des chutes on en prend tout au long de notre carrière, mais notre plus grande peur c'est de shooter un enfant justement. Et nos recommandations de sécurité, c'est pas pour faire bien ou quoi, il faudrait peut-être nous écouter parce que un jour s'il y a quelque chose qui se passe mal, ça sera dramatique quoi.
Merci Thomas pour ce message de sécurité aussi.
Et oui, on parlait de l'enthousiasme du public anglais, une terre de vélo indéniable.
Ils n'ont pas la culture de la course.
Indéniablement, il y a une ferveur, il y a une passion, il y a presque une connaissance bientôt historique et encyclopédique des palmarès. On est vraiment passionné, mais il n'y a pas cette culture. On n'a pas l'habitude d'aller voir des grandes courses de vélo prestigieuses où ça roule très vite et surtout où il y a autant de coureurs et autant d'enjeux que sur un Tour de France. Cyril, on touche peut-être là les limites. Luc, on touche peut-être là les limites des explorations made in Tour de France. C'est bien beau d'aller déclencher la ferveur, mais si c'est pour s'exposer à de tels risques, Thomas Vauclair a été très clair, il y a danger sur cette étape anglaise.
Il y a eu danger sur les courses, sur les deux étapes, les deux premières étapes en Angleterre. Pourquoi ? Parce que quand on regarde un petit peu les bas-côtés de la route, il n'y a pas de place. Et les gens sont automatiquement sur la route. Et donc prennent pratiquement, je ne dis pas la moitié de la route, mais une très bonne partie de la route et sont carrément sur les coureurs. Donc c'est vrai que le moindre petit pépin, ça peut engendrer un drame sur le Tour de France. Un enfant, parce que les Anglais n'ont pas l'habitude du Tour de France, des courses cyclistes. Donc ils ne connaissent pas le danger. Et dans l'enthousiasme, un gamin peut avancer, un parent même, et ça peut provoquer un drame sur le Tour de France, et notamment au niveau des coureurs.
Ouais, on y reviendra évidemment sur ces dangers-là. En tous les cas, Thomas Vauclair a tiré le signal d'alarme tout à l'heure au micro de Pierre-Yves Leroux. Alors, Thomas nous disait Pierre Roland est au chaud, mais Pierre Roland a pris quand même un petit éclat, tout comme Thibaut Pinot, puisque les deux leaders français sont arrivés dans un deuxième groupe avec pas grand-chose, mais tout de même 16 secondes de retard et 14 secondes de retard sur le premier groupe.
Hein. C'est beaucoup quand même.
Le groupe réglé par Van Avermaet 2 secondes derrière Nibali était composé de 20 coureurs. Dans ce groupe de 20, on trouvait tous les favoris pour le général et les Français Tony Galopin, Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault. Mais c'est vrai que des coureurs comme Thibaut Pinot qui a réglé ce groupe attardé, Pinot ou Pierre Roland ou Franck Schleck ont lâché 14 secondes sur des Contador, sur des Christopher Froome, et 16 secondes sur Nibali. Alors, ce seront des miettes sur les Champs-Élysées, mais ça montre que certains sont vraiment tip top prêts d'entrée de jeu sur ce Tour de France. On pense à Bardet, à Perrault, à Froome, à Contador, à Nibali bien sûr, mais certains ont déjà affiché quelques limites.
Surtout que les 14 et 16 secondes, ils vont pas les rattraper en montagne ou ils vont pas les rattraper dans le chrono, donc il va falloir tactiquement trouver la solution pour essayer de reboucher ces 14 ou 16 secondes.
La hiérarchie est établie.
Voilà, et puis on a un autre qui est beaucoup plus loin, mais enfin on n'attendait pas de miracle de sa part. C'est Andy Schleck qui termine 51e de l'étape avec un retard de 49 secondes. Tout à l'heure on l'a vu à l'avant de la course, mais malheureusement il n'a pas réussi à suivre dans le final. Andy Schleck n'est plus, il faut bien le dire, n'est plus le champion qui a nous régalé il y a de cela quelques années. En revanche, Nibali est peut-être le champion qu'on espère, qu'on attend dans ce Tour de France. On le rappelle, vainqueur du Giro l'année dernière, il a fait l'impasse cette année sur le Tour d'Italie pour être au sommet dans ce Tour de France. C'est vrai que depuis le début de la saison, tout de même, Cyril, Nibali était quand même un ton en dessous de Contador ou de Chris Froome. Là, tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas tirer trop d'enseignements et trop de conclusions. Mais en tous les cas, il montre à tout le monde, à la concurrence, qu'il est bien là. Et surtout, il montre qu'il a un sens aigu de la course et un sens tactique.
Nous n'en doutions pas qu'il avait un sens aigu de la course, compte tenu de ses moyens qui ne sont pas ceux de Contador ou ceux de Froome d'une façon générale. Et qu'il est bien obligé de composer avec des moyens un tout petit peu inférieurs à tous les grands champions qu'on a connus. Il sait parfaitement exploiter son potentiel. Aujourd'hui, il a respecté une règle que je donne souvent. Il a été le dernier à attaquer, mais avant les autres.
Et voilà, exactement.
À 2 km de l'arrivée.
Savoir, faut avoir du pif, quoi. Savoir quand attaquer.
Il était bien placé quand il attaquait. En plus, il a vu que ça gagne.
C'est toujours la même chose. Enfin, les scénarios sont toujours un peu semblables, c'est-à-dire que vous avez plusieurs attaques on y va une fois, on y va deux fois, on y va trois fois, et puis il y en a une au
ça
moment
se relève,
où il y a une
à un moment donné, ça en fait, se regarde.
Tout va se jouer sur un problème psychologique, c'est-à-dire qu'au moment où il va y avoir une rupture de concentration, et à partir de ce moment-là, celui qui va sortir va faire un premier trou suffisamment important pour que derrière, le premier qui fera l'effort sera condamné.
Voilà. Voilà. Donc, sens aigu de la course et du sens tactique. Nibali, vainqueur d'étape et nouveau maillot jaune de ce Tour de France. Il dépossède Marcel Kittel qui lui a terminé. Ouh là là, il est très loin, Marcel Kittel.
Il n'a pas encore terminé.
Il n'est toujours pas là d'ailleurs, Marcel Kittel. Si vous le voyez sur les routes du Yorkshire, donnez-lui une petite gourde parce qu'il doit avoir soif. L'ami Marcel, vainqueur de la première étape hier. Il est peut-être en direction de Wimbledon d'ailleurs. On va tout de suite retrouver Eric Salio qui lui est bien en place depuis un moment et peut-être encore pour un moment. Djokovic Federer, nous sommes dans la quatrième manche, Eric.
Ouais, c'est un moment important, Christophe, puisque Novak Djokovic a au bout de sa raquette une balle de break d'entrée de quatrième manche, enfin quasiment d'entrée puisqu'on est à 2-1 dans cette quatrième manche. Federer s'est retrouvé à 0-40, il a sauvé les deux premières, il en est troisième à sauver les très importantes. Ce passing de Djokovic qui est out et bien sûr si pour Federer, donc qui est mené deux manches à une et qui sauve pour l'instant provisoirement sa mise en jeu au début du quatrième set. 2-1 pour Djokovic, 40 au service du Suisse.
À tout à l'heure, Eric, pour la suite de cette finale. Il est 17h46, vous êtes sur RMC l'intégrale. Tout revient dans une petite minute pour la suite du débrief de cette deuxième étape remportée donc par Vincenzo Nibali, l'italien de la formation Astana.
RMC intégrale Tour, Christophe Sessieux.
L'intégral tour en direct de Sheffield dans le Yorkshire, le nord de l'Angleterre, terme de cette deuxième étape du Tour de France qui a donc vu la victoire tout à l'heure de l'italien Vincenzo Nibali, champion d'Italie, l'un des leaders annoncés de ce Tour de France et qui a montré à la concurrence qu'il était bien là. On rappelle les classements, Fred, outre la victoire de Nibali, des choses très intéressantes dans cette deuxième étape.
Eh oui, la victoire donc du nouveau maillot jaune, le requin de Messine, 29 ans, vainqueur du Tour d'Italie l'an passé, deuxième de la Vuelta. On rappelle qu'il avait quand même terminé troisième du Tour en 2012, qu'il avait terminé deuxième d'un Liège-Bastogne-Liège. C'est assurément le meilleur coureur italien du moment, champion d'Italie depuis dimanche dernier. Il devance grâce à une attaque à 2 km de l'arrivée dans cette étape très vallonnée au profil de Liège-Bastogne-Liège. Il devance en attaquant sur le plat de 2 secondes le Belge Greg Van Avermaet, le Polonais Michał Kwiatkowski est troisième, Peter Sagan quatrième, devant un Français Tony Galopin, cinquième. On notera la présence de Romain Bardet à la dixième position. Romain Bardet qui a été le dernier à attaquer juste avant Nibali. C'était le coup juste avant le bond. Contador et Christopher Froome sont dans ce même groupe de 20 unités. Pinot et Roland lâchent une quinzaine de secondes aujourd'hui. Le maillot jaune est donc sur les épaules de l'Italien Vincenzo Nibali, 29 ans. Le maillot à poids de meilleur grimpeur échoue sur celle de Cyril Lemoine, dit Moineau, le coureur de l'équipe Cofidis qui a fait partie de la grande échappée du jour. Le maillot vert est toujours la propriété de Peter Sagan qui est également meilleur jeune du Tour de France et portera encore demain le maillot blanc.
Voilà, le maillot blanc pour Peter Sagan qui se console avec ce maillot blanc mais qui doit forcément être déçu aujourd'hui, Cyril. Peter Sagan qui a montré dans les ascensions de toutes les côtes qu'il était bien là au contact des leaders. Il est même allé passer devant Alberto Contador, quand même, faut oser, mais qui s'est fait piéger comme tous les autres.
Oui, mais sur une côte comme la dernière, il est beaucoup plus fort que Contador s'il veut attaquer. C'est un coureur qui a des qualités explosives extraordinaires et c'est donc pas surprenant de le voir à ce niveau-là. Le seul problème qu'il a eu, c'est de ne pas avoir un équipier pour pouvoir boucher quelques trous, de pouvoir aller sur quelques attaques, mais il va se consoler en prenant d'une part la tête du classement par points, donc le maillot vert, devant d'ailleurs Brian Coquard qui lui avait marqué également des points sur les sprints intermédiaires. Donc un maillot vert, il est également meilleur jeune. Bon, ben ça c'est en passant, mais c'est pas son objectif. Ce qu'il voulait, c'était la victoire d'étape et son classement par points. Ceci dit, pour le maillot vert, il creuse les écarts.
Voilà. Il y en a un autre qui est déçu, Lucho. On l'a vu tout à l'heure, Pierre-Yves nous le disait, c'est Romain Bardet, hein, le jeune français de la formation Agelozère, dont tu nous parles depuis le début de ce Tour de France.
Oui. Non, il ne faut pas être déçu. Il fait quand même dixième de l'étape.
Mais il était déçu parce qu'on l'a vu attaquer dans le
stade. Il était déçu.
Juste avant.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que bon, son objectif, c'est de bien se comporter sur le tour. Là, c'était quand même une étape, une des premières étapes phares de ce Tour de France. Il est quand même au rendez-vous. Il fait dixième. Il arrive dans le bon groupe. Il n'a pas été déçu de, et moi, non plus. Je vais pas être déçu de sa performance aujourd'hui. Comme le disait Cyril tout à l'heure, par rapport à Sagan, je crois que l'erreur tactique qu'ils ont fait, c'est de faire monter ses équipiers à Sagan dès le pied de la bosse à bloc. Et se sont retrouvés, ben Sagan s'est retrouvé complètement isolé. Alors, au lieu de faire fonctionner les autres équipes, de regarder un petit peu ce qui se passe et de garder un, voire deux équipiers sous le coude, parce qu'il savait très bien qu'il restait 5 km après le sommet de la dernière bosse et qu'il lui fallait absolument impérativement, au moins au minimum, un équipier. Et là, je crois que tactiquement, ils l'ont vraiment mal joué.
Il s'est peut-être enterré tout seul, ouais, Peter Sagan,
bien sûr.
En menant la dernière descente à 4 km de l'arrivée.
Trop de confiance,
tambour battant. Il a empêché le retour d'un équipier, ce qui lui a fait des faux, ce qui lui a manqué dans le final à coup sûr.
Alors c'est vrai qu'il aurait... Alors c'est toujours facile de parler après.
Bien sûr. Alors
toujours
là,
refaire le match,
là,
comme on dit.
On adore.
Mais c'est vrai que s'il avait au contraire essayé de faire en sorte que... Et en plus, je pense qu'il en avait les moyens, parce qu'il est quand même très adroit, de ralentir le groupe de tête pour laisser rentrer au minimum un équipier. Peut-être deux d'ailleurs, parce que je n'ai pas regardé s'il n'avait pas plusieurs équipiers.
Il est capable de rouler sans les mains en écartant les bras en plus.
Avec
il a même
les jambes.
Il n'aurait jamais dû faire la descente comme il a fait, ça c'est clair.
Bon, c'est une petite erreur. Est-ce que le groupe serait revenu ou pas? Ça, c'est difficile à dire.
Mais... Messieurs, un petit mot sur les leaders. Hein. Évidemment, Alberto Contador, Chris Froome. On a vu Chris Froome à l'attaque là aussi dans la dernière ascension.
Un partout balle au centre.
Tout le monde s'est montré.
Là, ce qui était sympa à voir, c'était un peu le même scénario que l'an passé vers Ajaccio. On se souvient, cette étape remportée par le Belge Bakke Lance à la surprise générale, de voir ce coup de semonce made in Christopher Froome, qui, après qu'Alberto Contador ait mené dans cette dernière et très pentue difficulté du jour à 5 km de l'arrivée, il a essayé d'impressionner la concurrence. C'est une intox qui a commencé. Ces deux-là sont vraiment sur des niveaux similaires. Ils n'ont pas fait la différence parce qu'on était vraiment dans les dernières dizaines
c'est
de mètres.
C'est pas leur genre d'ascension. Ce n'était pas le jeu. D'ailleurs.
C'est une guerre des nerfs qui a commencé, Cyril.
Tout à fait. Mais on a pu voir aussi que les Vandenbroek, les Valverde, Kwiatkowski étaient également présents.
Très bien, messieurs. Eh bien, on va se quitter sur ces bonnes paroles.
Ils sont tous là, nous aussi d'ailleurs.
Bah oui, nous aussi. Il n'y a pas encore d'abandon. Hein, pour l'instant, tu tiens le choc.
Ça va.
T'es dans la bonne roue. Lucho, Cyril, toujours en tête de peloton. Il n'y a pas de souci. On va se retrouver évidemment demain dès 15h pour la troisième étape. Fred, troisième étape. Alors là, c'est tout plat. Demain, il n'y a pas de difficulté. C'est pour les sprinters.
155 km entre Cambridge et Londres, arrivé devant Buckingham Palace.
La reine sera-t-elle présente?
Elle sera en jaune.
J'ai mes infos, mais elle m'a demandé de garder ça
d'accord,
secret.
D'accord.
On doit se voir demain après-midi.
Est-ce que tu as fait la bise to Kate?
Autre. Stop.
Très bien. On va voir si Eric Salio va faire la bise to Kate. La bise to Kate en français. Eric, pour la finale, puisque Kate Middleton est présente à Wimbledon aujourd'hui.
Tu veux dire la duchesse de Cambridge?
Oui, exactement.
Oui. Bah, écoute, je ne suis pas assez proche d'elle. Je suis à l'autre bout du stade, donc c'est compliqué. Et puis, je pense qu'elle vit ce match intensément parce que là, on est dans le Money Time. 2-7-1 Djokovic. 3 jeux à 2 Djokovic, mais le Serbe qui avait un break ne l'a plus. Federer l'a effacé, mais le problème c'est que Federer doit effacer une nouvelle balle de break, quasiment allez, une balle de match on va dire, puisque ça le mettrait à 2-4, mais il a considérablement haussé son niveau, Federer, mais là il y a un grand danger. On va suivre ce point, Christophe, si tu veux bien, parce que s'il y a 4-2, je pense que là Djokovic ne fera pas deux fois la même bêtise, à savoir la fameuse décompression, deuxième balle de Federer, elle est dedans, il va essayer d'être très agressif, le Suisse, il est pris, ah c'est un nouveau break pour Novak Djokovic, qui sera approche vraiment à grands pas d'un deuxième titre à Wimbledon, 2-7-1 et 4-2 pour Novak.
Ok Eric, ça sent la fin malheureusement pour Roger Federer. On revient vers toi dans quelques instants.